lipogramme et anaphore. Oui, oui, vous avez bien entendu, lipogramme et anaphore. Des chroniques littéraires, des événements locaux autour de l'écriture et de la littérature. Le vendredi à 17h05, c'est très précis, après les portraits d'Occitanie, et vous l'entendrez deux fois par mois. Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Il est né à la fin du 19e siècle. Il est mort en 1970. Il a écrit de nombreux romans, récits, nouvelles, plusieurs scénarios de films. Difficile de trouver son nom ? Mais si je vous dis qu'il a vécu essentiellement à Manosque, en Provence donc, qu'il est l'auteur, entre autres, d'Un hussard sur le toit, de Regain, d'Un roi sans divertissement, et qu'il a écrit le scénario de L'eau vive, même si vous n'avez jamais rien lu de lui, vous allez me dire qu'il s'agit de... Eh ben oui, Jean Giono, bien sûr. Moi, je l'ai découvert, c'est quand même un des plus grands écrivains français de la première moitié du XXe siècle, et je ne l'ai découvert que l'été dernier. Pour moi, il avait une image vieillotte, un écrivain qu'on dit régionaliste, comme il y en a beaucoup en Provence. Certains en avaient déjà parlé. Et puis, je me suis plongée dans un recueil de contes et récits et j'ai été subjuguée par la beauté de la langue, la façon magnifique de raconter. Je voyais ces paysages austères de l'arrière-pays provençal, les saisons qui s'enchaînent, la vie rude de ses habitants. Alors j'ai eu envie de vous faire partager ma découverte avec quelques extraits de romans ou de nouvelles. Alors pour commencer, et comme en ce moment c'est d'actualité puisque nous entrons dans l'automne, voici une description de l'automne tirée d'Un roi sans divertissement. Je suppose que vous savez où l'automne commence. Il commence exactement à 235 pas de l'arbre marqué M312. J'ai compté les pas. Vous êtes allé au col Lacroix ? Vous voyez la piste qui va au lac du Lauzon ? À l'endroit où elle traverse les prés à chamois en pente très raide. Vous passez deux crevasses d'éboulis assez moches. Vous arrivez juste sous l'aplomb de la face ouest du Ferran. Paysage minéral parfaitement tellurique. Gneiss, porphyre, grès, serpentine, schiste pourri. Horizon entièrement fermé de roches acérées. Aiguilles de luce, canines, molaires, incisives, dents de chien, de lion, de tigre et de poisson carnassier. De là, à votre gauche, piste pour les cheminées d'accès du Ferran. Alpinisme, panorama. À votre droite, traces imperceptibles dans des pulvérisations de rochasses couvertes de diatomées. Suivre ces traces qui contournent un épaulement et dans un creux comme un bol de faïence, trouver le plus haut quadrillage forestier, peut-être 200 arbres, avec à l'orée nord un frêne marqué au minium M312. Là-bas devant et à 235 pas, planté directement dans la pente de la faïence, un autre frêne. C'est là que l'automne commence. C'est instantané. Est-ce qu'il y a eu une sorte de mot d'ordre donné hier soir, pendant que vous tourniez le dos au ciel pour faire votre soupe ? Ce matin, comme vous ouvrez l'œil, vous voyez mon frêne qui s'est planté une aigrette de plumes de perroquet jaune d'or sur le crâne. Le temps de vous occuper du café et de ramasser tout ce qui traîne quand on couche dehors, et il ne s'agit déjà plus d'aigrette, mais de tout un casque fait des plumes les plus rares. Des roses, des grises, des rouilles. Puis ce sont des buffleteries, des fourragères, des épaulettes, des devantiers, des cuirasses qu'il se pend et qu'il se plaque partout. Et tout ça est fait de ce que le monde a de plus rutilant et de plus vermeil. Enfin, le voilà dans ses armures et fanfreluches complètes de prêtres guerriers qui frottaillent de petites crécelles de bois sec. M312 n'est pas en reste. Lui, ce sont des amus qu'il se met. Des soutanes de miel, des jupons d'évêques, des étoles couvertes de blasons et de rois de cartes. Les mélèzes se couvrent de capuchons et de limousines en peau de marmotte. Les érables se guêtrent de houseaux rouges, enfilent des pantalons de zouave, s'enveloppent de capes de bourreau, se coiffent du béret des Borgia. Le temps de les voir faire est déjà les prairies à chamois bleuissent de colchic. Quand, en retournant, vous arrivez au-dessus du col Lacroix, c'est d'abord pour vous trouver en face du premier coucher de soleil de la saison. du bariolage barbare des murs. Puis vous voyez en bas cette conque d'herbe qui n'était que de foin lorsque vous êtes passé il y a 2 ou 3 jours. Devenu maintenant cratère de bronze autour duquel montent la garde les Indiens, les Aztèques, les pétrisseurs de sang, les batteurs d'or, les mineurs d'ocre, les papes, les cardinaux, les évêques, les chevaliers de la forêt. Entremêlant les tiares, les bonnets, les casques, les jupes, les chairs peintes, les pans brodés, les feuillages d'automne, des frênes, des hêtres, des érables, des amélanchiers, des ormes, des rouvres, des bouleaux, des trembles, des sycomores, des mélèzes et des sapins, dont le vert noir exalte toutes les autres couleurs. Chaque soir, désormais, les murailles du ciel seront peintes avec ces enduits qui facilitent l'acceptation de la cruauté et délivrent les sacrificateurs de tout remords. L'ouest, badigeonné de pourpre, saigne sur des rochers qui sont incontestablement bien plus beaux, sanglants, que ce qu'ils étaient d'ordinaire, rose satinée ou du bel azur commun dont les peignaient les soirs d'été, à l'heure où Vénus était douce comme un grain d'orge. Un blême vert, un violet, des taches de soufre et parfois même une poignée de plâtre, là où la lumière est la plus intense, cependant que sur les 3 autres murailles s'entassent les blocs compacts d'une nuit, non plus lisses et luisantes, mais louches et agglomérées en d'inquiétantes constructions. Tels sont les sujets de méditation proposés par les fresques du monastère des montagnes. Les arbres font bruire inlassablement dans l'ombre de petites crécelles de bois sec. J'espère que vous avez pu apprécier la beauté des arbres et la richesse de la langue. Alors, dans un autre registre, je voudrais vous faire savourer un dialogue, une courte nouvelle qui se nomme « Le mort », qui a été écrite vers 1948-1950. Le sujet, un homme vient de mourir chez lui. Sa veuve fait appel à une voisine pour l'aider à l'habiller pour l'enterrement et aussi pour prévenir les habitants de sa mort. Donc, dans le rôle de la veuve, comme c'est un dialogue, vous entendrez Catherine Mort, conteuse émérite.
Ma mère m'a dit de venir vous chercher pour que vous alliez l'aider à habiller mon père pendant qu'il est encore chaud.
Il est mort ?
Il y a 5 minutes.
J'y vais tout de suite. J'ai tout quitté, je suis venue.
Eh oui, mon pauvre mari est mort.
Ta fille est venue me chercher, me voilà. Te sens-tu de m'aider à l'habiller ?
C'était un brave homme, il a beaucoup souffert.
Fou, il ne souffre plus. Qu'est-ce que tu veux lui mettre ?
Sa chemise blanche.
Elle est prête ?
Oui, je l'ai repassée hier.
Ferme la fenêtre, sans quoi il va nous raidire dans les mains.
On ne doit pas fermer la fenêtre sur les morts.
On l'ouvrira quand il sera prêt. Ferme tout de suite. Son bras est déjà comme du fer.
Oh, qu'est-ce que nous devenons ?
Qu'est-ce que tu as pu fabriquer ? Je n'ai jamais vu un mort neuf être déjà si raide.
Oh, mais je ne sais pas, je suis peut-être restée un moment.
À quoi foutre ? Ça ne va pas être facile. Il est pris, il est bloqué. Et ne force pas, tu casserais tout.
J'ai rangé. J'ai pas mis plus de 5 minutes. On ne sait plus ce qu'on fait.
Jamais je n'en ai vu un qui ait autant durci tout de suite. Ne force pas, je te dis, tu casserais tout. S'il n'a pas sa chemise blanche, tant pis. Je ne crois pas qu'on puisse la lui passer.
Oh, je l'avais préparée hier. Je l'avais même amidonnée.
Il restera avec la chemise qu'il a.
Elle est sale. Il souffrait trop, je n'osais pas le changer.
Donne-moi sa veste, fais le tour du lit. Viens te mettre ici, tiens-lui les épaules. Ça non plus, ça ne sera pas facile.
Oh mais dépêche-toi, il est lourd.
J'ai passé une manche, mais maintenant c'est l'autre qui rouspète.
Si tu n'y arrives pas, laisse-la. On boutonnera la veste par-dessus. C'est surtout des pantalons qu'il faut lui mettre.
Il aura l'air manchot. Il vaut mieux alors le laisser carrément en bras de chemise.
Mais on verra sa chemise sale.
On ne nous voit pas souvent avec des chemises propres. 9 fois sur 10 en temps normal, on nous voit avec des chemises sales.
Oh, il me donnera froid, rien qu'à le voir comme ça, en cette saison.
Mettons-lui la veste sur le dos, comme il ferait s'il avait froid. Mais couche-le vite. Si par malheur il se glace au ventre, il restera assis. Et alors, ça sera une autre histoire. Qu'est-ce que tu as pu foutre pour le laisser durcir comme ça ?
Ben, j'ai un peu rangé.
Ah, il s'allonge. J'avais une belle peur qu'il reste plié en deux. Les pantalons, c'est facile, tu vois. Ils sont beaux, ces pantalons.
Et ils sont tout neufs.
Il ne les mettait pas, de beaux pantalons, en velours, comme ça.
Je les lui économisais. Mais maintenant, au moins, il les a.
rabat la veste de chaque côté sur lui. Est-ce que tu ne peux pas la boutonner ?
Si, si.
Eh bien, regarde, finalement, il n'est pas mal.
S'il n'avait pas cette barbe, je lui mettrais une cravate.
Oh, la cravate, ce n'est pas bien nécessaire. Mais c'est une mentonnière pour lui fermer la bouche, à quoi tu aurais dû penser ?
Mais je n'ai pensé qu'aux yeux.
Pousse un tout petit peu la barbe devant sa bouche, on ne la voit plus.
Maintenant, il va falloir le faire savoir.
Alors les deux femmes le font savoir et puis elles continuent à discuter. Alors, attends, dans le village, ici d'abord, à qui veux-tu qu'on aille le dire en particulier ?
Oh, tu le vois toi-même, tu connais nos amis. Vas-y en personne et dis-leur, Albert est mort.
Oui, il faut surtout que je leur dise l'heure de l'enterrement. Ça sera quand ?
La demoiselle de la mairie te le dira.
Demain après-midi ?
Pourquoi demain ?
Il me semble, ça pourrait faire. Qu'est-ce que tu en dis ? Il faut les garder 24 heures.
Et pourquoi juste ?
Pour qu'on soit bien sûr qu'il est mort.
Et tu crois qu'il ne l'est pas ?
Si.
La Joséphine, elle a gardé le sien 2 jours. Moi, je veux garder le mien 2 jours.
Bon, garde-le 2 jours.
Et dis-le à la mairie. Hein.
Bon, ne t'énerve pas, ce n'est pas la peine. Garde-le 2 jours. Si on te condamnait à le garder 1 semaine, c'est toi qui crierais la première. Tu veux qu'on fixe ça à jeudi matin ?
Jeudi, c'est la foire de Mans. Tout le monde y va. Ah, il n'y aura personne à l'enterrement.
Mercredi, c'est demain. Tu ne veux pas. Jeudi, c'est la foire à Mans. Vendredi, c'est trop tard. Rends-toi compte. Chaque jour, il y a quelque chose. Il faut te décider.
Jeudi soir, alors ?
À quelle heure ?
À 5 heures.
C'est nuit noire à 5 heures.
Et c'est parce que le car arrive à 4 heures. Les gens seront de retour.
D'ailleurs, c'est le curé qui réglera l'heure.
Ah, mon pauvre Albert, tu vas partir en cachette, sans personne à ton convoi, sauf moi, qui ne t'abandonne pas. Comme si tu étais un voleur de grand chemin. Toi qui n'as jamais fait de tort à personne.
Et si vous avez envie, vous pouvez lire la suite de la nouvelle. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais derrière la description directe, brutale, on peut dire, j'entends quand même beaucoup d'humour, même si c'est un humour un peu macabre, mais je trouve que c'est un texte absolument savoureux.
Ma petite est comme l'eau, elle est comme l'eau vive. Elle court comme un ruisseau que des enfants poursuivent. Courez, courez, vite si vous le pouvez. Jamais, jamais, vous ne la rattraperez. Lorsque chantent les pipeaux, lorsque danse l'eau vive, elle mène mes troupeaux au pays des olives. Venez, venez, mes chevreaux, mes agnelets. Dans le laurier, le thym et le serpolet. Un jour que sous les roseaux sommeillait mon eau vive, vinrent les gars du Vameau pour la mener captive. Fermez, fermez votre cage à double clé. Entre vos doigts, l'eau vive s'envolera. Emporté par l'eau vive, dans ses yeux les jouvenceaux voguent à la dérive. Voguez, voguez, demain vous accosterez. L'eau vive n'est pas encore à marier. Pourtant un matin nouveau, à l'aube mon eau vive viendra battre son trousseau aux cailloux de la rive. Pleurez, pleurez, si je je demeure esselé, le ruisselé au large s'en est allé.
Alors, dans un autre registre, je vais vous lire le début d'un récit qui se nomme « Ennemonde et autres caractères » et qui commence par une description du haut pays. Les routes font prudemment le tour du haut pays. Certaines fermes sont à 10 ou 20 kilomètres de leur voisin le plus proche. Souvent, c'est un homme seul qui devrait faire ces kilomètres pour rencontrer un homme seul. Et il ne les fait pas de toute sa vie. Ou bien c'est une tribu d'adultes, d'enfants et de vieillards qui devrait aller vers une autre tribu d'adultes, d'enfants et de vieillards. Pour y voir quoi ? Des femmes démantelées par les grossesses répétées, des hommes rouges et des vieillards faisandés. Les enfants aussi d'ailleurs. Et se faire regarder de haut ? On s'en fiche. Si on veut se faire voir, ça se fera aux foires. 30 ou 40 kilomètres séparent les villages qui restent soigneusement sur les pourtours où passe la route. Dans les terres, hêtres, châtaigniers, chênes rouvres, hêtres de plus en plus énormes et hauts à mesure qu'on pénètre plus profond, rouvres de plus en plus millénaires, loin de tout commerce avec les hommes, des familles de bouleaux très belles en été et qui disparaissent, blanc sur blanc, dans la neige. Sur les landes, des lavandes, des genêts, de l'alpha, du carex, de la dent de lion, puis des pierres roulées, comme si jadis dans ces hauteurs passaient des fleuves. Enfin, au grand large, des pierres plates sonores comme des cloches, reproduisant le moindre bruit, le saut d'un criquet, le trot d'une souris, le glissement d'une vipère, ou le vent qui prend appui sur ces tremplins telluriques. Le ciel est souvent noir, ou alors bleu marine sombre, mais l'impression qu'on en reçoit est celle qu'on recevait du noir. Sauf à l'époque où fleurit un réséda sauvage, dont l'odeur fine est si joyeuse qu'elle dissipe toute mélancolie. En dehors de cette époque du réséda, le beau temps ici n'est pas gai. Il n'est pas triste non plus, il est autre chose. Ceux à qui il convient ne peuvent plus s'en passer. Le mauvais temps aussi est très séduisant. Il prend tout de suite des allures cosmiques. Il y a du galactique et même de l'extra-galactique dans son comportement. Il ne peut pas pleuvoir ici comme ailleurs. On sent que Dieu s'en occupe personnellement. Le vent y prend nettement en main les destinées du monde. L'orage y modifie ses données. Il n'éclaire plus et il ne fait plus de bruit. Tous les objets métalliques se mettent simplement à luire. Boucles de ceinture, crochets de souliers, agrafes, lunettes, bracelets, bagues, chaînes, etc. Il faut se manier avec précaution. On rencontre souvent 20, 30 êtres superbes, foudroyés côte à côte, morts de la tête aux pieds, carbonisés, debout, noirs, attestant qu'il se passe quelque chose dans ce silence. Les crépuscules sont plus souvent verts que rouges et ils durent très longtemps. Si longtemps qu'on est à la fin obligé de s'apercevoir que la nuit est tombée et que la lueur vient maintenant des étoiles. Ici, elles éclairent. Elles suffisent pour qu'on se reconnaisse dans un chemin. On en voit peut-être plus qu'ailleurs. Ce qui est sûr, toutefois, c'est qu'elles sont plus grosses, l'air y étant pour quelque chose, soit que sa pureté, qui est extrême, mette à vivre les constellations, soit, ce que certains prétendent, qu'ils contiennent une matière faisant office de loupe. Évidemment, personne ne peut se flatter d'avoir été par nuit noire au grand large. Dans les cas où elle est prévisible, on se carapate avant qu'elle soit là. Il y a une façon de se conduire envers ce pays qui a été mise au point par les ancêtres et qui a donné d'excellents résultats. C'est même la seule. On s'y conforme. Chaque accident qu'on a vu arriver, et il ne se compte pas, et il y en a d'étranges, viennent tous d'une entorse à ces règles, à ces sortes de règles ou de lois. Eh bien, moi, je m'y croirais. Hein. Je vois le ciel, je vois les êtres. Je trouve vraiment ce passage magnifique. J'espère que vous l'avez apprécié. Je vais vous lire l'introduction que Gilles Lapouche fait de l'ouvrage « Caractère » de Giono, bien sûr. Il parle de son art et je pense qu'il en parle beaucoup mieux que je ne pourrais le faire. Donc je préfère vous lire cette courte introduction. Les véritables héros de ces récits sont les paysages. Pour Giono, la terre, le ciel ou le vent, plutôt que la psychologie, règle la couleur des âmes et manigance les destins. Certaines décisions, disait-il, sont prises par le désert, la montagne, la mer, la frondaison des forêts, le mugissement d'un fleuve, l'arc de triomphe du carrousel ou la vue de Rome sur le Janicule, quand on s'imagine qu'elles ont été prises par la conscience, le tempérament ou messieurs Descartes. Donc pour compléter cette description de la nature, je vais vous lire un extrait, donc justement de caractère, qui parle des villages de ce haut pays. Cet extrait termine cette première émission concernant Giono. Sur des hauteurs escarpées, les villages se dessèchent. Ce sont des thorax dont les viscères ont été mangés par le sable et le soleil. Reste la peau, comme une peau de tambour, et l'os, une cage vide grondante de vent et d'abeilles. Une odeur d'excréments, comme toutes les Chines, au-delà des murailles cartésiennes, et les enfers. C'est le lieu géométrique de la démesure. Vie d'insectes avec des ruelles où on va jeter les seaux hygiéniques ou poser carrément culottes sur les petits pavés Louis XIII sertis de saxifrage, d'armoises blondes et d'absinthe blanche. Avec de vieux palais dont le maçon défonce la façade pour y lisser à la truelle une plaque de crépi, où le peintre vient inscrire avec des arabesques le mot « épicerie » ou « boucherie ». La boutique est installée dans l'ancienne salle des gardes, avec pour la boucherie frigidaire du dernier modèle et pour l'épicerie une grande vitrine, 3 mètres carrés, sans monture transversale métallique, portant en lettres gravées, couleur de brouillard, les mots « self-service », qui ne servent évidemment à rien, sinon à être là pour dire « nous sommes modernes ». Du moderne, il y en a partout. On ne prétendra pas qu'il n'est pas moderne ce rocher blanc qui a 100 milliards d'années d'existence. Qu'y a-t-il de plus moderne que le ciel? Et Dieu sait s'il y en a. Affleurement de l'enfer ou d'une raison déraisonnante. L'odeur, les grondements, les espaces vides, la solitude, ces commerces, ces épiceries qui ne vendent plus d'épices, ces bouchers qui ne sont plus prêtres, sinon de banques. Chacun de ces villages est un tout complet. Il n'entretient pas de rapport, sinon de haine ou d'envie, avec les autres villages. Il reste dans son odeur, son grondement, son creux. L'ouverture de ses caves, de ses ruines, beauté dans les orties, donne accès à son enfer personnel. Ici est clairement expliqué qu'il ne peut pas y avoir d'enfer collectif. Les pactes avec le diable se signent sur toutes les tables de cuisine de ces villages. Et nul besoin de mysticisme pour y prendre plaisir. Chacun porte en soi-même l'autel et les prêtres de l'intérêt. Les sentiments y sont, comme par ailleurs, des prisons, mais des prisons à la piranèse. Il y a toujours quelque part une volée d'escalier qui monte vers le vide, le néant pur, un balcon qui surplombe des échos, un pont qui va d'une porte scellée à une autre porte scellée. C'est dans ce gymnase que l'âme se livre à ses amères pitreries. Dans les collines désertes, on entend crier le vent sec. Donc, dans la prochaine émission, pour compléter ce survol de Giono, je vous lirai une nouvelle carrément entière, qui s'appelle Solitude de la pitié. Donc, à bientôt, dans 15 jours.